Bonjour Lara.
Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RDL 103.5, bienvenue sur la CC Radio. Nous sommes aujourd'hui vendredi 1er décembre et nous serons les présentateurs principaux. Ce projet de web radio a été pensé et inauguré par la classe de seconde 3 au lycée Camissé et persistera peut-être les années qui suivront.
Effectivement, la radio sera centrée sur 5 thèmes principaux qui sont l'art et la culture, le sport, l'écologie, la vie au lycée et le voyage. Les thèmes seront présentés à la suite avec des passages en musique entre deux rubriques.
Écoutez, n'attendons plus.
Et lançons la première rubrique qui porte sur l'écologie.
Eh bien, il y a des pontos qui se sont perdus dans le lycée.
Devine quoi, Jawed ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Jean et je présenterai la discussion verte avec vous maintenant. Actuellement, au lycée Camissé, il y a une dizaine de moutons dans un éco-pâturage de 2 hectares, dans les terrains verts de la cour de récréation. Ce n'est pas quelque chose de très innovant, en effet. Cette expérience a déjà été faite dans le lycée Mermoz à Saint-Louis, mais sur un plus petit terrain. Ce projet a été fait en collaboration avec l'association Alternature, qui a pu nous accompagner pour ramener les moutons au lycée. Ces grosses boules de coton nous sont rejoints au début de l'année scolaire et repartiront mi-décembre. Des discussions sont en cours pour qu'ils reviennent quand la saison des fleurs pointera le bout de son nez.
Mais quelle est l'utilité ? Ils sont gentils, ils sont beaux, mais à quoi ça sert ?
Eh bien, tout d'abord, c'est franchement sympa des moutons dans une cour de récré. Ensuite, ils ont une fonction de tondeuse naturelle et qui ne pollue pas. En effet, cela permet à la pelouse d'être broutée et donc de rester propre. Ce n'est pas la première action verte que le lycée a effectuée, après le labyrinthe et les boîtes à recyclage dans les salles de classe. Le projet a en tout coûté 3800 euros. Des futures améliorations sont à venir, comme un abri pour les moutons, ou peut-être même de nouveaux animaux ou insectes. Nous avons interrogé Madame Steib, qui est la CPE des classes de terminale au lycée. C'est elle qui a porté l'idée jusqu'à sa mise en place, avec l'aide des élèves éco-délégués. D'après ses réponses, elle est très fière du projet, et notamment de sa réussite. Il y a eu néanmoins quelques difficultés. Une première association a été contactée, mais ne voulait pas s'occuper des moutons et de l'entretien général du projet. Il y a eu également la mise en place des barrières et leur alimentation en électricité. Cependant, toutes les étapes ont été réunies pour que le projet devienne réalité et que de nouveaux élèves, un peu différents, arrivent au lycée. C'était la discussion verte, merci de m'avoir écouté, merci Jawed. Je m'appelle toujours Jean et c'était un plaisir de vous informer. À bientôt.
Merci à Jean et à Jawed pour cette rubrique. Et on passe directement des moutons aux nuages avec la rubrique voyage.
Bonjour et bienvenue sur la CC Radio dans la rubrique « Votre voyage, c'est les mines ». C'est Raphaël qui vous parle et aujourd'hui, nous allons vous présenter le voyage des terminales euro-anglais. Ils ont eu l'opportunité de partir aux États-Unis pendant 2 semaines grâce à un partenariat avec le lycée North Central High School à Indianapolis. Nous avons la chance d'être accompagnés de 2 invités qui vont être interviewés par Mathilde et Lisa. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Lisa et Mathilde et aujourd'hui on va interviewer Eugénie et Fiorel. Salut les filles!
Bonjour!
Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler du voyage?
Oui, avec plaisir. Alors, on est parti en voyage aux États-Unis dans le cadre de la section européenne terminale, comme ça a été dit. Et on est parti 3 jours à Chicago, 11 jours à Indianapolis et 2 jours à New York. Et c'était une super expérience.
Nous avons prévu ce voyage depuis la classe de première. Du coup, on a fait des ventes de fromage pour financer aussi un peu le voyage. Et c'était une très belle opportunité de pouvoir partir aux États-Unis.
Est-ce que vous pouvez nous dire, c'était quoi votre endroit préféré ?
Personnellement, je n'ai pas eu vraiment d'endroit préféré parce que chacun est différent. J'ai beaucoup aimé Indianapolis pour l'aspect un peu relationnel avec du coup, les correspondants, être vraiment dans la famille. Découvrir le lycée là-bas, etc. Mais après, j'ai aussi beaucoup aimé New York, parce que c'est un avis strictement personnel, puisque c'est une ville mondiale, il y a une énorme émulation culturelle, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Chicago, un peu moins, puisque en fait, on a perdu ma valise pendant 8 jours. Du coup, c'était les premiers jours où j'avais pas encore d'habits, etc. Donc, c'était un peu compliqué.
Alors moi c'est Indianapolis, comme l'a dit Eugénie, par rapport à l'aspect relationnel, j'ai eu la chance de tomber dans une famille extraordinaire, ça on peut le dire. Ils m'ont couverte de cadeaux, comme d'autres familles d'ailleurs ont couvert de cadeaux les autres correspondants. Personnellement, j'ai moins aimé New York, notamment à cause des odeurs, parce que comme c'est une grande ville, on peut voir des gens qui prennent pas forcément soin d'eux et donc il y a de mauvaises odeurs et aussi des relents au niveau des poubelles, des déchets. Et moi j'ai beaucoup aimé Chicago puisque je n'ai pas perdu ma valise.
Oui, non, mais après Chicago c'est quand même une très belle ville, mais voilà. Mais du coup, oui, Chicago c'était quand même génial. Enfin, niveau la ville, etc., c'est beaucoup plus calme que New York. Il y a moins de trafic, même si ça reste une grande ville américaine. Et c'était un peu notre premier... à bord avec les États-Unis, donc c'était très impressionnant voir les gratte-ciel, etc. Voilà.
Ok, merci. Et vous avez parlé que vous étiez en famille. Est-ce que c'était plusieurs élèves dans la même famille ?
Ça dépendait, puisque logiquement il y a moins d'Américains qui sont en section française. Du coup, des fois, c'était un peu compliqué pour Mrs. Reed, du coup, la correspondante aux États-Unis, de trouver des familles. Mais des fois, il y avait des personnes qui étaient deux dans une même famille. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être seule avec ma correspondante. Et c'était une famille géniale. Mais après avoir une correspondante pour deux, c'est aussi bien.
Ok. Moi aussi, j'ai eu la chance de pouvoir être dans une super famille et toute seule. Mais par contre, c'est vrai qu'ils nous ont placés parfois par domaine d'affinité. Donc les gens avec qui on était censé avoir des affinités, parfois ça n'a pas marché pour certaines personnes de la classe. Il y a eu certains problèmes, mais donc à ce moment-là, nos professeurs ont agi et ont replacé ces personnes dans d'autres familles.
Ok. Vous nous parlez du lycée un petit peu. Du coup, c'est quoi votre ressenti dessus ? Et vous pourriez peut-être nous dire les différences entre le lycée français et le lycée américain ?
Première chose, c'est énorme. Vraiment, c'est gigantesque. Ils ont 2 piscines, des énormes terrains de football américain. C'est un truc de malade. Vraiment, dans une des parties en fait, où j'étais, où ma correspondante était, il y avait un garage où en fait, les élèves ils pouvaient apprendre à fixer des voitures, etc. C'était totalement choquant. Et ma correspondante était dans la production de musique. Du coup, ils avaient des MacBooks, plusieurs studios avec des micros qui coûtaient une centaine d'euros. C'était, il y avait énormément de budget. C'était absolument choquant.
Et c'est vrai que nous, en France, Camissé, c'est considéré comme un lycée assez grand, important, alors que là-bas, il y a 3000 élèves. Ils ont aussi des cours de tennis. Les couloirs sont très longs. C'est divisé en fonction des lettres de l'alphabet, pour vous donner une idée. Il y a de nombreuses différences, notamment ils ont des cours de poterie. Donc j'ai pu faire de la poterie puisque ma correspondante Grayson faisait de la poterie. Et les différences sont énormes aussi au niveau des cours, c'est-à-dire que chez eux, ça va être chaque jour le même jour, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les mêmes cours aux mêmes horaires et au bout de, je crois, des trimestres ou des semestres, je ne sais pas comment ils fonctionnent, ça va vraiment changer du tout au tout et ils vont avoir de nouvelles matières. Et également, ils n'ont pas besoin forcément de lever la main pour prendre la parole. Ils ont le droit d'utiliser leur téléphone et pour aller aux toilettes, ils ont besoin de petits billets qui seront signés par les professeurs.
Mais aussi, ils ont le droit d'utiliser leur téléphone, tout le monde a leur AirPods, ils sont vraiment dans la bulle. Il y a aussi une certaine différence entre la relation élève-professeur. Tout d'abord, par exemple, les professeurs, quand j'arrivais, ils me serraient la main, ils disaient « I'm so nice to meet you », ils étaient très... Alors que peut-être les professeurs français, il y a un peu plus de distance, alors que là, enfin...
C'est très amical.
C'est très amical, ouais.
Ok. Et vous avez parlé de beaucoup de positifs, du coup, mais est-ce qu'il y avait des choses quand même négatives ?
Peut-être le fait qu'il y a un peu d'insécurité. Enfin, déjà, il y a de la police dans le lycée, littéralement. Aussi par rapport au... On peut acheter une arme au supermarché, quoi. Enfin, aux États-Unis. Des fois, on a entendu des histoires un peu... C'est-à-dire, il y en a un, il y a des grosses bastons dans le lycée, etc. Mais ouais, c'est peut-être ça qui est un peu le point négatif.
Après, un autre point négatif, je pense que c'était vraiment notre auberge de jeunesse à New York, compte tenu que ce n'était pas vraiment un auberge de jeunesse, mais plutôt des motels qui étaient...
On parle du lycée, là.
oui, mais là, du coup, je viens en général, et après, je reviens sur le lycée. Effectivement, c'est vrai que l'hôtel à New York était pas très bien. On a pu voir des rats dehors. C'était assez sale, il y avait des trous dans les murs, une douche moisie. Donc ça, c'est vrai que c'était un point négatif, mais c'était dû aux ventes de fromage. On n'en a pas réalisé assez, ce qui a fait qu'on n'a pas pu...
Après, je peux faire l'avocat du diable, mais New York, c'est quand même très cher. Enfin, c'est compliqué d'avoir un hôtel potable pour une classe d'une trentaine d'élèves. Même si on a vendu des milliards et des milliards de fromages, ça reste quand même compliqué d'avoir un hôtel. Donc, c'est aussi un peu le principe.
Ok, parce que du coup, tout ce qui est le prix, tout le paiement, c'est le lycée qui a couvert ?
Non, pas... Enfin, pour tout ce qui est nourriture, du coup... dans les grandes villes, du coup Chicago et New York, on nous donnait du coup $20 pour pouvoir se nourrir et on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais ces $20 étaient dus une partie au lycée, mais aussi des bénéfices que l'association, du coup, pour la vente de fromage a fait. Et du coup, en fait, ça nous a permis d'avoir un peu d'argent pour pas forcément débourser de notre poche et même pour faire des activités là-bas, plus d'activités et voilà.
Ok, merci.
Vous êtes partie pendant la période d'Halloween. On sait que vous l'avez fêté là-bas. Et du coup, est-ce que ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a en France ou c'est vraiment mieux ?
Alors, c'est très différent. Déjà parce que c'est vrai que pendant les soirées d'Halloween ou même les fêtes en France, on a le droit... Beaucoup, non, on n'a pas encore le droit, mais disons que beaucoup de Français boivent de l'alcool. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas, puisqu'il faut qu'il y ait un âge de 21 ans pour pouvoir boire de l'alcool. Et donc, je sais que moi, j'ai fêté Halloween chez une amie à ma correspondante, et c'était une soirée costumée, déguisée. Et c'est vrai que je pense que les Français ont moins tendance à se déguiser vraiment pour Halloween et les maisons. Était très décoré également. Quand je suis allée à la soirée, la maison était décorée. Idem, quand on passait dans la rue, on voyait des décorations que jamais on n'aurait pu voir en France. C'est vraiment... Beaucoup de gens s'investissent pour pouvoir faire ça. Et donc, à la soirée, il n'y avait pas d'alcool. Par contre, on avait de la musique, on a pu danser, il y avait un feu de camp. C'était très, très différent des soirées que j'ai pu faire en France pour Halloween.
Ouais, du coup, pour rebondir, moi aussi, j'étais à une soirée d'Halloween, puisque c'est vraiment le principe d'une correspondante, c'est vraiment de faire une meilleure immersion dans la culture américaine. Et oui, tout le monde était déguisé, il n'y en avait pas un qui n'était pas déguisé. Les maisons, elles étaient très, très décorées. Il y avait des squelettes géants devant des maisons, etc. Et oui, ils ont plus le sens d'Halloween qu'en France. Et ils le font plus qu'en France.
Ok. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps.
Merci Fiorelle et Eugénie d'avoir partagé votre expérience. Je remercie toute l'équipe avec Aïda et Lilou au son, Célène et Keïna à la rédaction, Mathilde et Lisa pour cette magnifique interview. Merci également aux auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle émission à notre compagnie.
Merci de nous avoir présenté cette rubrique, Raphaël, Lisa et Mathilde, ainsi que les invités. Eh bien, poursuivons avec Mathéo, Chris, Perle et Taha qui nous présenteront la rubrique sur le sport.
Le sport, il a changé.
Bonjour à tous, vous êtes sur CC Radio, sur la rubrique Olympico. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Chris, mon collègue, et de mon équipe constituée de Mathéo, Semi, Taha, Emeline et moi, Perle. Notre questionnement du jour portera bien évidemment sur le ballon d'or de Messi, mais plus précisément sur la validité du ballon d'or, c'est-à-dire est-ce que le ballon d'or est vraiment là pour récompenser les meilleurs joueurs ? Pour cela, nous allons commencer avec un peu d'histoire. Je vais laisser le micro à Chris.
Merci Perle. Oui, l'histoire est importante pour comprendre les grandes lignes de ce sujet assez polémique, surtout en ce moment. Le ballon d'or est logiquement là pour récompenser le meilleur joueur de l'année. Il a été créé en 1956. Ce prix est décerné à l'origine aux joueurs européens, mais depuis 1995, il peut être changé par tous les joueurs étant en club européen à la suite de leur saison effectuée. Un classement est mis en place par rapport à certains critères que Perle va vous expliquer plus en détail maintenant.
Merci Chris. Bien évidemment, on ne va pas désigner un joueur avec un plouf 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 ou je ne sais quoi. Il y a certaines conditions à cocher pour le devenir. Ce sont les mêmes critères pour les femmes et les hommes. Les voici. 1. Performance individuelle et collective, palmarès. C'est le nombre de compétitions gagnées pendant la saison, mais aussi l'attitude et l'impact du joueur sur son équipe. 2. Les joueurs, les classes des joueurs, talent, fair play. C'est l'une des choses qui fait souvent la différence entre deux joueurs, à égalité au premier point. 3. Carrière du joueur est bien sûr pris en compte et peut aussi faire la différence entre un joueur qui a une brillante carrière d'un joueur qui préfère à choisir l'argent à l'histoire footballistique. Voici les trois critères à avoir pour obtenir le ballon d'or. Mais par qui est choisi le meilleur joueur et comment ? Tout de suite avec Chris.
Oui, il faut bien des gens pour choisir ce joueur, mais aussi pour créer ce classement et pour cela plus de 100 jurés.
Le 30 octobre, Lionel Messi a gagné le ballon d'or 2023. En effet, il a dominé le ballon d'or avec 462 points devant Erling Haaland avec 357 points. Et le français Kylian Mbappé avec 270 points. La Pulga a été placée au choix numéro 1 à 65 reprises sur 92 votants. Cependant, le ballon d'or de Messi fait polémique car les fans pensent que le cyborg Erling Haaland le mérite plus avec son excellente saison. Il a inscrit 53 buts et a fait le total avec Manchester City, FA Cup, Ligue des Champions, UEFA Super Cup et Premier League. Il a aussi gagné le trophée du meilleur buteur de la Ligue des Champions, la meilleure compétition au monde. Alors que Messi a inscrit 32 buts mais 25 passes décisives et il a gagné le magnifique trophée de la Coupe du Monde en étant le meilleur joueur et le plus décisif. Il a aussi gagné la Ligue 1 et les trophées The Best.
Merci à toute l'équipe de nous avoir écoutés. À bientôt sur Olympico.
Venez d'écouter la rubrique sport. Et après ce passage en musique, nous accueillerons Gisèle et Sefa pour la rubrique Ma vie au lycée. Bonne écoute.
Bonjour, bienvenue au lycée Camissé. Vous vous trouvez bien dans la rubrique « Ma vie au lycée » de la CC Radio avec les élèves de la seconde 3. Aujourd'hui, pour la première émission, nous allons parler de la cantine. Tout de suite, plusieurs élèves et professeurs du lycée se feront questionner sur ce qu'ils pensent de la cantine en général. Des cuisiniers de notre restaurant scolaire se feront aussi interroger. On sait que l'amour passe par le ventre. Est-ce que l'amour du lycée passe aussi par la cantine? D'ailleurs, plusieurs élèves préfèrent parler de restaurant scolaire.
Et maintenant, les journalistes vont interroger les professeurs.
Aujourd'hui, nous allons interviewer une professeure du lycée Camissé, Madame Lafay.
Bonjour Madame, les végétariens trouvent-ils leur compte?
Bonjour, alors je mange à la cantine deux fois par semaine et je demande l'alternative végétarienne de temps en temps. Donc oui, c'est bien de proposer un menu végétarien tous les jours.
Merci. Les repas sont-ils assez complets et équilibrés en général?
Oui, à mon avis, c'est très bien.
Comment trouvez-vous l'environnement de la cantine?
Je trouve que c'est trop bruyant. Et que malheureusement, quand on veut faire une pause le midi, c'est pas toujours très reposant. Je trouve qu'il y a trop de bruit.
Aimeriez-vous manger un plat que vous appréciez beaucoup? Et si oui, lequel?
J'apprécie les menus à thème qu'il y a régulièrement. Et je pense que nous pourrions, comme suggestion, faire un repas spécialement pour Thanksgiving, en l'hommage des Américains, le troisième jeudi du mois de novembre.
Merci d'avoir répondu aux questions, au revoir.
Merci à vous.
Et maintenant, les élèves vont interroger Madame Kinlen, professeure d'histoire géo au lycée Camissé. Bonjour Madame et merci d'avoir accepté de vous faire interviewer.
De rien. Quelle est la première question?
Bonjour, les végétariens trouvent-ils leur compte?
Oui, depuis quelques années, la cantine a mis en place un repas pour les végétariens. Donc je pense qu'effectivement, si on est végétarien, on peut tout à fait venir manger au restaurant scolaire du lycée Camissé.
D'accord. Les repas sont-ils assez complets et équilibrés en général?
Pour ma part, je trouve que les repas sont très équilibrés avec le système du self. On peut vraiment se composer un repas tout à fait équilibré. Et il y a même une petite mention, je crois, à la cantine pour qu'on puisse se faire le repas le plus équilibré possible.
D'accord.
Comment trouvez-vous l'environnement de la cantine?
Je pense qu'il pourrait être un petit peu plus agréable par rapport à tout ce qui est décor, peut-être. Mais bon, l'ensemble est quand même tout à fait acceptable. La salle des professeurs a été refaite et c'est un endroit agréable.
D'accord. Et aimeriez-vous manger un plat que vous appréciez beaucoup?
Alors moi, j'aime tout manger, donc je trouve toujours ce qui peut me faire plaisir.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté de l'interview.
De rien.
Au revoir. Et maintenant, les journalistes vont interroger des élèves du lycée Camissé.
Bonjour, qui êtes-vous?
Bonjour, je m'appelle Lina Kravec et je suis en seconde 1 à Camissé.
Les végétariens trouvent-ils leur compte à la cantine?
Je pense que les végétariens trouvent leur compte parce que chaque jour, il y a un repas végétarien prévu pour eux, quoi.
Bonjour, les repas sont-ils assez complets et équilibrés en général?
Alors à mon avis, oui, surtout il y a souvent des entrées avec des salades et des légumes. Et en dessert, il y a souvent beaucoup de fruits, beaucoup de choix. Et même pendant les repas, on peut choisir, il y a souvent différentes sortes de légumes.
Bonjour, comment trouvez-vous l'environnement de la cantine?
Je le trouve bien parce qu'ils font toujours des décorations par rapport au thème. Et il y a toujours assez de place pour s'asseoir. Mais il arrive que parfois, il y a tellement pas de place qu'on est obligé d'aller dehors et il pleut.
Bonjour, y a-t-il un plat que vous appréciez beaucoup et que vous aimeriez manger à la cantine?
Déjà les lasagnes, je trouve ça super bon. C'est ça rapporte, ça donne du baume au cœur, tout ça. Et ensuite, j'adore les beignets. Donc, je peux.
Bonjour, comment trouvez-vous l'environnement de la cantine?
Bonjour, je trouve l'environnement de la cantine très convivial et c'est tout en fait.
Bonjour, les repas sont-ils assez complets et équilibrés en général?
Bonjour, je trouve que les repas à la cantine sont assez équilibrés. Il y a du choix en entrée avec des salades, en repas avec les légumes et en dessert avec les fruits.
Bonjour, comment trouvez-vous l'environnement de la cantine?
Bonjour, il se trouve que l'environnement est très bien car nous avons la possibilité de manger dehors. L'espace est assez grand pour accueillir tous les élèves et les professeurs.
Bonjour, les végétariens trouvent-ils leur compte à la cantine?
Bonjour, oui, ils trouvent leur compte car il y a une grande variété de choix d'aliments tels que plein de légumes différents. Et il y a également plusieurs repas faits exprès pour eux.
Bonjour, est-ce que vous aimeriez manger un plat que vous appréciez beaucoup à la cantine ?
Oui, j'aimerais manger une paella.
Et maintenant, les journalistes vont interroger le personnel de la cantine.
Bonjour, d'où proviennent vos idées de plat ?
Ben, nos idées de plat, ils sont surtout dirigées par l'obligation Egalim. En fait, on doit faire des repas équilibrés. Donc, on est obligé sur 3 semaines d'étaler la production, à savoir que vous ayez du bœuf, du veau, du porc, pas trop de frites, d'accord, pas trop de féculents, des légumes tous les jours. Et donc, c'est ça qui me donne, qui me guide dans mes idées. Après, une fois que vous avez choisi le porc ou le bœuf, on choisit une recette.
Et essayez-vous de faire des efforts pour l'environnement ?
Oui, on fait beaucoup d'efforts là-dessus. On fait attention aux emballages, on fait attention au tri. Donc, c'est des choses qui tiennent compte. On travaille beaucoup le local. Tous nos produits, tous nos légumes sont locaux. On achète chez un maraîcher de Colmar. Donc, on va le chercher tous les mardis. Et donc, tout ça fait partie pour préserver l'environnement.
Très bien, merci.
D'où proviennent vos produits ?
Nos produits, je disais essentiellement, ils proviennent de Colmar pour les maraîchers. Et ensuite, pour tout ce qui est viande et autres produits, on a un marché public. Donc, c'est des produits qui viennent de chez plusieurs fournisseurs, mais c'est décidé à l'avance. Et c'est pour tous les lycées les mêmes fournisseurs.
D'accord, merci beaucoup.
Merci à tous pour votre écoute. On remercie également Madame Lafaye, Madame Kinlen, les cuisiniers et les élèves d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur Ma vie au lycée.
Merci les présentateurs de cette rubrique et on passe à la dernière rubrique pour aujourd'hui avec Lara, Capucine, Ina et Marie qui parleront d'art et culture avec la rubrique Dizar.
Bonjour et bienvenue sur Dysart. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Jean-Baptiste Andréa, en commençant par parler de son parcours.
Jean-Baptiste Andréa, 52 ans, est un écrivain, ancien scénariste et réalisateur. Il a commencé sa carrière en créant des films en anglais. Celui qui l'a fait le plus connaître est bien entendu le film Dead End, qui a reçu de nombreux prix. Il continue à décoller dans le monde du cinéma en réalisant plusieurs films tels que Big Nothing, Hellphone, La Confrérie des Larmes et King.
Après de nombreux projets cinématographiques, Jean-Baptiste Andréa a voulu changer de métier, partir du cinéma pour finalement se mettre à l'écriture. Dans l'une de ses interviews, il se confiait sur l'envie de créer quelque chose de vrai, qui n'est pas une mise en scène, une sorte de fuite qui lui donnerait plus de liberté, où les personnages sont plus accessibles et originaux.
Il commence ainsi à écrire ses premiers livres, tels que Marraine, 100 millions d'années et un jour, Des diables et des saints, et Veiller sur elle.
D'ailleurs, on a pu voir Marraine en classe.
En effet, on a beaucoup travaillé sur ce récit. On a écrit des explications linéaires, des analyses. Nous avons donc été très surprises et heureuses de le voir en vrai. N'est-ce pas Marie ?
Ah là là, eh oui, bonjour à tous. Effectivement, avec cet emploi du temps de ministre, c'est assez compliqué. Mais bon, on a quand même eu l'occasion de l'interviewer après sa conférence sur son livre « Veiller sur elle ». Au salon du livre, beaucoup de monde s'intéresse au stand où l'on propose des signatures de livres. Auteurs, dessinateurs, gamers et bien sûr lecteurs, tous sont là. Avec Capucine, Ina, M. Chumnel et Mme Huckel, nous nous sommes faufilés entre les personnes pour tenter de lui parler. C'est assez exceptionnel quand même. En 2 minutes chrono, beaucoup de réponses sur les interrogations qui nous turlupinaient. Voici ce que nous avons appris.
On a étudié le livre Marraine, donc on a compris que c'était un garçon assez rêveur qui rencontre une jeune fille qui est aussi assez spéciale comme lui. Et donc on a plusieurs questions. Par exemple, les limites de Marraine, c'est assez inattendu quand même. On commence à la fin du livre et est-ce que c'est pour faire perdre les repères du lecteur ?
J'ai tout de suite conçu ce livre comme ça. Dans ma structure, ça commençait par la dernière scène. On peut dire que techniquement, c'est pour plonger le lecteur dans l'histoire. Moi, j'ai envie de raconter des histoires, c'est fondamental pour moi. Le rôle d'un livre, c'est de vous raconter une histoire. C'est pas de vous ennuyer, c'est pas de faire des grandes théories littéraires. Avant tout, un livre, c'est une histoire. Et ces premières phrases, qui sont effectivement celles de la fin, vous disent tout de suite, je plonge dans une histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gamin qui tombe. Enfin, vous savez même pas que c'est un gamin, d'ailleurs. Tout de suite, on se demande pourquoi, on se demande comment, on se demande où, on se demande instantanément ce qui se passe. Donc, naturellement, évidemment, avec un début comme ça, on est entraîné, on est happé par un tourbillon dans l'histoire. Et après, le défi est effectivement de tenir la promesse de ce début. Mais voilà, c'est une construction littéraire, une construction technique, romanesque qui me plaît beaucoup.
Du coup, c'est une fonction séductrice un peu.
Oui, mais c'est instinctif chez moi. Je me dis pas, tiens, je vais séduire le lecteur ou la lectrice par ça. Je me dis, ok, comment... Évidemment, on peut tous commencer une histoire par le début. Je trouve ça assez plat. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire qui se commence par le début. J'en sais, chaque histoire a sa voix. J'aime bien percuter les lecteurs ou les lectrices. Ça me paraît très important que tout d'un coup, en fait, c'est comme si vous étiez projeté dans une vie, dans une autre existence. Là, vous êtes instantanément projeté. Vous êtes tout d'un coup, on tombe. C'est hyper dynamique. Une nouvelle fois, c'est pas un procédé cynique, c'est moi chez moi. C'est pas haha, une fois qu'ils auront lu ça, ils pourront plus lâcher mon livre, ils sont obligés de l'acheter. C'est quelle est la meilleure façon de raconter mon histoire. Voilà. Et puis j'adore la symétrie, j'adore la construction. Et je trouve qu'il y a une beauté dans cette symétrie, le fait de commencer et de finir par la même phrase.
Et Shell, il est assez spécial quand même. On peut se demander s'il est handicapé, parce qu'il a des réactions particulières. Enfin, il pleure quand il y a trop de monde. Est-ce que vous êtes inspiré d'un handicap ?
Alors, non, moi j'avais justement, je déteste les étiquettes dans la vie, je déteste le fait que précisément, quand j'avais votre âge, on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il faut que tu choisisses tel métier ou tel métier. Moi qui voulais être écrivain, ça n'était pas dans les cases, ça n'était pas du tout dans les trucs d'orientation, et je me sentais un peu à l'écart, sauf que moi je le vivais très bien d'être à l'écart. D'abord parce que j'avais des amis, mais j'étais quand même à l'écart du système tout entier, et moi je trouvais ça chouette, je me disais c'est ma force d'être à l'écart, c'est ma force d'être différent, c'est ma force de ne pas ressembler aux autres. J'ai toujours très bien vécu. Quand je vais dans les lycées, je dis d'ailleurs, arrêtez d'essayer de tous vous ressembler, votre plus grande force, c'est la différence. Donc, Shell, je ne voulais pas une nouvelle fois l'enfermer dans la définition de ce qu'il avait. Est-ce qu'il a un syndrome d'Asperger ? Est-ce qu'il est autiste ? Est-ce qu'il est handicapé ? Évidemment, il n'est pas comme les autres. Moi, ça me suffisait. J'avais absolument aucune envie de le définir.
C'était une envie d'avoir une sorte de distance entre la relation de Shell et Viviane, parce que c'est pas vraiment de l'amour, mais c'est quand même une sorte d'admiration.
Oui, oui, alors j'ai voulu créer une relation. D'abord, on peut dire qu'elle est un peu déséquilibrée parce que Viviane a une sorte d'ascendant sur lui. Elle est plus intelligente, d'une certaine façon, plus conforme à la norme. Puis cette relation s'égalise au long du roman et devient justement une histoire d'amitié, d'amour. Là encore, comme dans mon dernier roman, je n'ai pas envie de la définir. En tout cas, c'est une vraie histoire d'estime mutuelle. J'ai parfois des gens qui viennent me dire « Ah, Viviane est cruelle !» Et en fait, ça, les gens qui me disent ça n'ont pas compris ce que j'essaie de raconter. Ou alors, je me suis mal exprimé. Mais c'est pas du tout une histoire de cruauté ou de manipulation, ce roman. C'est une vraie histoire d'amitié, d'estime, d'amour. Il y a tout ça à la fois.
Et vous savez le vrai prénom du personnage de Shell ?
Absolument, mais j'ai jamais dit à personne. C'est un secret. Très bonne question.
C'est le vôtre ?
Ah non, pas du tout, c'est pas le mien.
Ok.
Est-ce que vous avez déjà fait face à la page blanche ?
Non, dans la mesure où je n'écris que si j'ai une histoire et que j'ai une structure. Donc, je ne me retrouve pas à commencer un livre et à arriver à une page blanche. Ça, c'est typiquement le résultat de commencer à écrire sur une idée très ténue. Et à un moment, on s'arrête parce qu'on n'a pas construit et on ne sait plus où on va. Donc non, à l'inverse, on pourrait dire oui, parce que comme j'attends d'avoir une structure entière et une vraie histoire, tous les jours, moi, j'élimine des histoires et des idées. Donc moi, tous les jours, est une forme de page blanche tant que j'écris pas, tant que j'ai pas d'idées. Mais c'est pas une page blanche angoissante. Je commence pas pour m'arrêter un jour.
Est-ce que vous avez un nouveau projet d'écriture qui change totalement par exemple, vous allez écrire du fantastique ou un roman policier ?
Non, j'ai pas de nouveau projet d'écriture parce que j'ai besoin de temps entre deux projets. A priori, je me vois mal écrire du fantastique ou du policier. Moi, je préfère, parce qu'une nouvelle fois, on retombe dans des genres qui sont limités, ce qui fait que tout le monde tente à écrire la même chose et la créativité est réduite par rapport à la littérature dite générale où finalement on peut écrire ce qu'on veut. Donc chaque fois que j'ai de la fantaisie, par exemple, je trouve toujours des elfes et des dragons et des nains, et j'en peux plus. Tolkien a écrit ça il y a 70 ans, c'était génial, c'est pas la peine de refaire la même chose, les mecs. Donc ça, ça montre bien que dans un genre donné, tout le monde a tendance à s'imiter et que la variété est très réduite. Il y en a, hein, mais très réduite. Donc moi, je fuis ces genres-là, qui sont des enfermements. Et par contre, j'aime bien ramener dans mon dernier roman, Veiller sur elle, on pourrait dire, si on le lit d'une certaine manière, qu'il y a des moments qui flirtent avec le fantastique et le merveilleux. Et donc je préfère ramener ces genres différents dans mon domaine de la littérature générale que moi d'aller m'enfermer dans leur placard.
Mais vous aimez quand même les romans policiers
Policiers moins, le fantastique ouais, la fantaisie oui. Mais il y a très peu de choses qui m'ont plu dans ces genres-là, dans ma vie.
Est-ce que vous continuez toujours à réaliser des films à côté de l'écriture ?
Pas du tout, non. C'est un domaine que j'ai quitté en 2017 et qui m'a pas particulièrement rappelé et moi je l'ai pas rappelé non plus. C'est mon ex.
Avec votre ex, comme vous dites, du coup vous avez réalisé des films en anglais. Est-ce que vous allez aussi écrire en anglais ?
Oui, mes deux premiers films étaient écrits en anglais et réalisés en anglais. C'est une langue que j'aime beaucoup.
Vous allez écrire des livres ?
Non, parce que autant je me sens tout à fait capable d'écrire un scénario en anglais où c'est beaucoup de dialogue, où j'aurais besoin que ce soit vraiment ma langue maternelle pour écrire au niveau où j'écris en français, je pense, avec les libertés que je prends en anglais. Mais le fait d'avoir... Enfin, en fait, moi, je vis en anglais plus qu'en français parce que mon épouse est anglaise. Et donc, je parle anglais plus que français dans ma vie quotidienne. Et je pense que l'anglais nourrit certaines de mes tournures et je m'en aperçois de plus en plus. Il y a plein de gens qui viennent me dire « Vous avez des tournures assez étranges parfois et moi, je ne sais pas ce que c'est mes tournures étranges. » Et je pense que c'est lié à ça. Et pour le coup, il y a des tournures que j'ai identifiées, moi, au moment de l'écriture, intentionnellement, comme me venant en anglais. Et moi, comme je ne trouve pas une expression française équivalente, je me baigne dans l'anglais et je sais que je tords un peu le langage. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui m'échappent, pour le coup, aussi. Et qu'il y a une perméabilité entre les deux langues chez moi.
Merci beaucoup.
D'ailleurs, il y a quelques jours, il a gagné le prix Goncourt, grâce à son ouvrage « Veiller sur elle ».
En voici d'ailleurs un petit résumé. C'est l'histoire d'une œuvre d'art mystérieuse, car elle a été cachée par le Vatican dans les sous-sols d'une abbaye. Elle provoque des effets très étranges sur ceux qui la voient. Le Vatican lui prête des propriétés magiques. Et on va plonger dans l'histoire de cette œuvre à travers celle de l'homme qui l'a créée, Mimmo Vitaliani, qui vient faire son apprentissage en 1916 dans un village perdu d'Italie. Il rencontre la fille d'une des plus puissantes familles d'Italie. De leur rencontre va naître une histoire incroyable qui va les faire traverser un demi-siècle d'histoire et donner naissance à cette œuvre.
Le chèque qu'il a gagné au prix Goncourt a été de 10 euros, ce qui paraît assez dérisoire quand même. fonctionnement du prix concours. Le jury lit une centaine de livres dont il sélectionne les 15 meilleurs, puis les 8, puis les 4, pour enfin en choisir qu'un.
Pour conclure, le message fort de Jean-Baptiste Andréen est le suivant. Ne pas renoncer à ses rêves. C'était Dysart, merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle histoire.
C'est la fin de notre web radio CC Radio pour aujourd'hui.
On vous retrouve très bientôt. Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt.
Au revoir.